Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être ici avec vous, ici avec Hélène, ici sur le territoire Mohawk. Moi je travaille pour un organisme sans but lucratif qui s'appelle Mining Watch Canada ou Mineland Canada. Nous travaillons partout en Canada et aussi d'ailleurs dans le monde où les compagnies canadiennes travaillent, donc ça veut dire partout dans le monde. Nos buts, c'est de pousser l'industrie minière que ça soit plus responsable du côté environnemental et aussi social. Souvent, ça veut dire qu'on aidons les communautés de rejeter les projets. De temps en temps, nous travaillons avec des communautés qui s'intéressent peut-être dans un projet. Mais surtout, on travaille avec des communautés qui rejettent les projets miniers, comme ce qu'on voit avec les Mohawks et le projet Neocan. C'est intéressant de voir qu'après 10 ans d'opposition constante, avec deux processus de BAP, de validation environnementale, on n'a pas encore eu un gouvernement québécois qui peut dire non à un projet minier. Donc je veux m'enfoquer un peu sur cette question-là, mettre cette question dans un contexte dans Québec ou aussi dans le Canada. Comment est-ce que c'est possible qu'avec autant d'informations techniques de les processus d'évaluation environnementale, puis avec autant d'opposition, le gouvernement qui devrait représenter les peuples de la région ne peut pas dire non à une petite compagnie. C'est même pas une grande compagnie. Donc, c'est pas nouveau l'opposition autochtone face à l'industrie minière. En Ontario, en 1850, la convention de Robinson-Huron a été faite à cause de l'opposition des Anishinaabe à des projets miniers dans son territoire. Donc il y a une longue histoire, mais c'est juste dans les dernières 10 à 15 ans, je dirais, qu'il y a ce que Hélène a appelé un mouvement. Et c'est vrai qu'il existe un mouvement international pour que le monde, souvent les autochtones, mais aussi des autres communautés locales, peuvent avoir plus de pouvoir décisionnel sur le territoire. Les questions que je veux essayer de répondre ce soir sont comment est-ce que c'est possible et pourquoi le gouvernement ne peut pas dire un simple non au projet Neocan. Est-ce que c'est le fait qu'il ne peut pas dire non, c'est extraordinaire ou est-ce que c'est typique de la situation? Et enfin, quoi faire? On va commencer avec la question si c'est typique ou extraordinaire, cette réalité qu'après 10 ans, on n'a pas encore eu une décision respectueuse du gouvernement. Hier, j'ai parlé avec des collègues de la coalition pour que Québec aille meilleure mine. Nous avons parlé un peu de cette situation aussi. On a-tu demandé pourquoi ils n'ont pas donné un nom? Aussi, j'ai demandé à eux s'il y a des autres projets en Québec où ils n'ont jamais donné un nom. De monde qui connaît très bien l'industrie minière, mais qui connaît aucune. Donc, ce n'est pas une chose extraordinaire qu'on n'a pas eu un nom de parti du gouvernement québécois. En cette île, il y avait un mouvement très fort contre un projet uranifère avec la communauté de cette île, puis aussi des Inuits. Ils ont rejeté la compagnie Terra Ventures de la région. La compagnie, disant que c'était à cause de la chute de le prix de l'uranium, mais c'est sûr que c'est aussi à cause du mouvement créatif, actif, fort du monde de cette île qui ont rejeté ce projet de son région. Mais qu'est-ce que nous avons entendu du gouvernement québécois? Rien du tout. Ils n'ont jamais apporté le monde de cette île. Ils ont juste dit, mais voilà, si vous ne voulez pas, peut-être on va pas pousser le projet, on va juste retirer un peu. Mais ils n'ont jamais dit non clair, on va respecter les intérêts du monde local. Nous avons travaillé avec un projet d'uranium aussi en territoire cri. Ça, c'est quelque chose à voir, qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est un processus d'évaluation. On attend un rapport des deux communautés d'évaluation provinciale et fédérale. Puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Le monde de Mistissini a rejeté le projet. Peut-être la différence là, c'est que chez les CRI, il faut avoir un comité d'évaluation où ils participent, les CRI même. Donc on attend une réponse un peu différente peut-être là-bas. Hier, j'ai eu l'opportunité d'aller visiter le monde de Barrier Lake, la communauté algonquienne qui a défendu son territoire depuis des années. Ils commencent à avoir la même lutte que de Mohawk avec Neocan. Une compagnie, Cartier Resources, vient de commencer l'exploration. Ils ont dépensé que 125 000 $ d'exploration dans le territoire, mais ils ont une option avec une autre compagnie de dépenser 5 millions de dollars dans les prochaines quelques années. Donc ça va être un projet d'exploration fort. Les Algonquins de Barrier Lake ont rejeté les travailleurs cri qui étaient sur le territoire, demandant de respecter le fait que c'était le territoire. Ils sont partis. La compagnie a dit que pour l'instant, ils vont respecter la décision, mais ils vont aller parler avec le gouvernement québécois. On attend une explication du gouvernement de Québec comment ils ont permis l'exploration sur le territoire algonquin sans aucune consultation. C'est contre la loi plus forte du Canada, la Constitution de 1982. Donc, en Québec, c'est normal qu'on n'écoute rien du non du côté minière du gouvernement. Aussi en Canada, sauf qu'on a eu quelques-uns des exemples où on a eu un non. En Nouvelle-Écosse, il y avait un projet de mine de basalte qui a suivi une étude rigoureuse. L'énigme puis la communauté locale se mis ensemble et avec la réévaluation, ils ont rejeté le projet. Maintenant, il y a une plainte légale de compagnie avec le NAFTA. C'est quoi le NAFTA en français? La ligne. Disant que ce n'était pas juste le fait qu'un processus d'évaluation environnementale a rejeté son projet. Nous avons aussi le projet de Camas North, en Colombie-Britannique, aussi rejeté dans un processus d'évaluation environnementale. Maintenant, la compagnie revient à ce projet. Ils ont un nouveau plan pour la mine, disant que ça va être moins, avec moins d'impact. Donc, c'était un non avant, mais ils sont retournés à voir s'ils peuvent changer un peu et continuer le travail. Il y a deux semaines, j'ai eu le grand honneur d'être en Nunavut, travaillant avec, je crois que c'est le premier organisme environnemental et social en Nunavut, ça s'appelle Nikita. Il travaille contre le projet Kigalik, qui est un grand projet d'uranium proche à Baker Lake. Il y a 10 ans, le monde de Baker Lake a eu un vote. 90% du monde a dit non à la mine d'uranium. 10 ans plus tard, la compagnie revient. C'est une nouvelle compagnie beaucoup plus avancée, beaucoup plus slick. C'est Arriva, une des compagnies nucléaire le plus grand du monde. Donc, de nouveau, la communauté de Baker Lake, il faut s'organiser, il faut essayer d'attendre qu'est-ce qui arrive avec un mine d'uranium dans son territoire. Donc, ça revient. C'est difficile de dire non. Même les gouvernements ne veulent pas dire non, les compagnies ne veulent pas écouter non. Il revient. En Ontario, on a eu deux autres exemples qui sont importants. Il y avait, dans la même année, la situation de KI, Big Trout Lake, dans le Grand Nord d'Ontario. Et dans le sud, il y avait la situation des Algonquins de Hard Rock. Les deux ont rejeté les compagnies minières, mais ça coûtait cher. Ça coûtait très cher pour les communautés. Le chef puis cinq conseillers de KI a été mis en prison pour 3 mois. Même ancien chef de les Ardors a été mis en prison à Kingston pour 3 mois aussi. Heureusement, ce projet-là sont finis. Il a coûté le gouvernement ontarien 5 millions de dollars de payer la compagnie Platinex pour qu'il retrait les claims qui avait mis sur le territoire des KI. Donc, comment est-ce que c'est possible que ça coûte si cher, la résistance à l'industrie minière? Nous avons des gouvernements qui sont très résistants de dire un non clair à l'industrie. C'est une industrie qui a un pouvoir presque incompréhensible. C'est difficile à savoir comment ils sont arrivés à avoir autant de pouvoir, même si on sait la quantité d'argent qu'ils gagnent. On a vu un exemple très clair de l'influence qu'une compagnie minière peut avoir sur le gouvernement en Colombie-Britannique. Pendant l'évaluation environnementale d'un projet qui s'appelle le projet Prosperity, un nom très bien choisi par la compagnie. Ils ont commencé à faire les dons à la partie libérale du Colombie-Britannique la même année que ça commençait l'évaluation environnementale de son projet. Dans un an, ils ont donné 30 000 $ à la partie libérale en Colombie-Britannique. Même que après, le gouvernement fédéral a trouvé une quantité des effets négatifs de ce projet. Autant que même Stephen Harper a dit que this project has a myriad of environmental problems. Puis Jim Prentice a dit que c'est un des pires projets qu'il a jamais vu, des pires évaluations environnementales qu'il a eues. Pas la qualité de l'étude, mais le projet même. La province de Colombie-Britannique a donné permis à cette compagnie de faire son projet. Un autre exemple du pouvoir de l'industrie minière, c'est le fameux projet de loi C-300. On a entendu un peu dans la vidéo des impacts des compagnies canadiennes. Cette petite loi était une première réforme pour retirer un peu le pouvoir des compagnies canadiennes. Il y avait un mouvement qu'on n'a jamais vu en Canada pour apporter ce projet de loi. Les organismes religieux comme Développement FP, les ONG comme Kairos, qui est maintenant très fameuse. Il y avait un mouvement fort. Et c'était une loi assez petite, franchement. On attend beaucoup plus que ça. Mais l'industrie minière est sortie fortement contre le loi. Ils ont convaincu assez de députés libéraux et de NDP d'arriver pas, d'être pas là pour le vote, qu'avec seulement 6 votes, nous avons perdu le vote pour ce petit loi.
Excuse-moi.
Oui.
Oui.
Moi. Donc, c'est le pouvoir qui arrive avec le pouvoir économique, le pouvoir politique. Mais il ne reste pas juste avec le pouvoir politique. Il commence à aussi essayer d'avoir le pouvoir sur le basse intellectuel de notre société. De plus en plus, on voit que les compagnies minières font les dons à les universités. Je pourrais parler de l'Université de Toronto, le centre de Peter Munk, qui est le président de la compagnie Barrick Gold, une des plus agressives compagnies minières dans le monde. Aussi, l'Université de Memorial, Terre-Neuve, Simon Fraser, Colombie-Britannique, l'Université d'Ottawa. Ils ont tous des très grands dons des compagnies minières. Les compagnies sont aidées avec un système légal qui les donne tout l'avantage. Nous avons les lois coloniales qui veulent promotionner l'industrie minière avec une mentalité coloniale qu'il faut avoir l'industrie minière pour ouvrir les nouveaux terres, pour mettre le développement dans les terres sauvages. C'est de ce pansement d'où vient notre loi minière. C'est pour ça que une compagnie minière avec maintenant seulement un clic d'une souris d'ordinateur pour avoir les droits sur un territoire pour explorer les minéraux. Dans pas juste la loi des mines, mais dans toutes les lois, on n'a pas les droits locaux, on ne respecte pas ni les droits des autochtones, ni les droits des communautés locales. Donc, toutes les lois donnent préséance à l'industrie. Donc, la municipalité de Oka ne peut pas dire non à la mine. Nous avons essayé de changer ce fait dans le projet de loi ici en Québec. Nous avons réussi juste quelques petits changes dans le projet de loi, mais ça, on n'a pas changé. Ce projet de loi, maintenant, ça sent que c'est non. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec ça. On attend peut-être un nouveau projet de loi. Avec les très grands efforts et les très grands sacrifices, nous avons fait quelques améliorations dans les lois d'Ontario. Je parlais avant un peu des situations des Argos et des KI. Cette crise a poussé le gouvernement ontarien de faire des changements. Puis on a réussi des changements. On est loin d'être dans une situation idéale, mais au moins, juste pour donner un exemple positif, on a eu des changements. Maintenant, au moins dans le grand monde d'Ontario, il n'y aura pas de nouveaux mines si les communautés ne sont pas d'accord. Donc, ce n'est pas exactement le consentement préalable qu'on veut, mais ça arrive à être proche. Et ça donne un exemple pour les autres régions du Canada et des autres régions du monde, parce qu'il y a des membres qui nous regardent partout. Bon, juste en conclusion, des fois la résistance, ça coûte cher, mais il faut le faire. On a eu des succès, on a gagné quelques-uns. Même si nous sommes le David contre le Goliath. C'est super nécessaire, les alliances. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, le monde KI, s'il était tout seul, là, à Big Trail Lake, s'il n'y avait pas un réseau de communication, s'il n'y avait pas de monde de Toronto qui ont organisé des manifestations très grandes dans le centre de Toronto, ce qu'ils ont fait sans sacrifice n'arriverait pas à faire les changements que nous avons eu en Ontario. Ceux que vous êtes impliqués dans la situation de Neocan, je vous invite, je vous encourage de faire partie aussi de la coalition ou les autres travails pour pousser les lois. Il faut travailler dans le niveau local dans les projets spécifiques. Mais il faut aussi changer les règles du jeu. Si on ne change pas les règles du jeu, on va être toujours contre le mur. C'est plus ou moins tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous invite à visiter notre site web miningwatch.ca, aussi chercher pour les informations, surtout en Québec, Coalition pour que Québec aille meilleur en mine. C'est un organisme fantastique qui travaille surtout dans les efforts bénévoles de quelques progression. Un dernier mot, aussi un nouveau frein pour les militants ici. Il faut dire que c'est aussi le fait que le gouvernement de Québec a décidé d'apporter un nouveau, c'est pas nouveau, mais la réouverture d'une mine d'amiante avec une garantie de financement de presque 60 millions de dollars pour la mine de Jeffrey. Donc, Neocan, c'est peut-être un bon exemple des problèmes que nous avons ici en Québec et d'ailleurs en Canada. C'est pas le seul conflit. Je vous invite de faire les connexions, les liens entre tout et chercher des solutions légales, les solutions culturelles aussi, comme elle l'a dit. Merci beaucoup. Je vous invite des questions après la présentation de